VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Voilà, bienvenue à l'édition du mardi 17 mars 2015. À la une ce soir.
Le Sénégal, le président Macky Sall veut réduire son mandat de 7 à 5 ans, conformément à l'une de ses promesses électorales.
Arrestation de militantes pro-démocratie et de journalistes à Goma, en RDC, lors d'une manifestation devant l'Agence nationale de renseignement.
En RCA, au moins 8 personnes ont été tuées au début de cette semaine dans la région de Ngoundaï, dans le nord du pays.
Les Israéliens se rendent aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur Knesset ou Parlement.
Négociations sur le programme nucléaire de l'Iran en Suisse. Le chef du nucléaire iranien affirme que les responsables de son pays sont parvenus à une entente avec les États-Unis sur la plupart des questions.
Et puis n'oubliez pas, dans moins de 10 minutes, l'économie, la minute éco, et puis les sports avec Nicolas Pino. Mais d'abord, le journal.
Le président sénégalais annonce vouloir réduire son mandat de 7 à 5 ans, conformément à l'une de ses promesses électorales lors de la campagne de 2012. On fait le point avec Nicolas Pino.
Oui, ce n'est pas une surprise, mais cette fois c'est officiel. Macky Sall va soumettre la question à référendum en 2016. En vue d'organiser la prochaine présidentielle en 2017 et non en 2019, comme actuellement prévu par la loi. Le chef de l'État sénégalais a fait cette déclaration lors d'une rencontre à Dakar avec l'Association de la presse étrangère au Sénégal, la première depuis son investiture en 2012. Durant sa campagne électorale, puis une fois au pouvoir, M. Sall avait promis de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais il a expliqué mardi que cette modification concernant un mandat déjà entamé devrait d'abord passer par la voie référendaire après avis du Conseil constitutionnel. Si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle au lieu de 2019, a déclaré Macky Sall. Alors que dans de nombreux pays africains, certains s'éternisent au pouvoir en modifiant la constitution, le Sénégal reste un modèle de démocratie puisque Dakar n'a jamais connu aucun coup d'État depuis l'indépendance en 1960.
En RCA, au moins 8 personnes ont été tuées au début de cette semaine dans la région de Ngoundaï, au nord du pays. À Bangui, par contre, plusieurs personnes ont été blessées dans des heurts opposant ce lundi les forces internationales à un groupe armé dans le quartier Boirabé, dans le 4e arrondissement. Faisons le point avec Eddy Sango.
Selon l'abbé Bernard Dia, curé de Ngaoundaï, les assaillants lourdement armés ont pris d'assaut la ville aux premières heures de la matinée. Ils ont abattu froidement 8 personnes, dont 2 élèves, provoquant la fuite d'autres habitants. On ignore encore l'identité du groupe armé, mais selon des sources locales, ces hommes seraient venus du Tchad. À Bangui, par contre, le calme est revenu au quartier Boirabé, théâtre d'affrontements hier entre forces internationales et hommes armés. Selon une source proche de l'opération Sangaris, en milieu d'après-midi du lundi, une patrouille de soldats français a riposté à une attaque d'individus armés à Boirabé. Elle serait rejointe quelques temps plus tard par la MINUSCA et la gendarmerie centrafricaine pour sécuriser les secteurs. Toujours selon la Sangaris, les patrouilles ont été à plusieurs reprises attaquées à l'arme légère et à la grenade. C'est finalement aux environs de 20h30 que la situation est totalement passée sous contrôle. Jusqu'à ce mardi, aucun bilan exact n'était encore disponible. Par ailleurs, certains témoins parlent de plusieurs blessés par balle, dont 3 élèves du lycée Barthélemy Bonganda.
À noter aussi que Lindsay Thomas Greenfield, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, est en visite de 48 heures en RCA.
Arrestation de militants pro-démocratie et de journalistes à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. 2 ressortissants belges auraient aussi été malmenés. L'ONG Lutte pour le changement, citée par l'AFP, affirme que 9 de ces militants et 2 confrères journalistes congolais ont été interpellés lors d'une manifestation devant l'Agence nationale de renseignement. Ils protestaient ainsi contre la détention de Fred Boma, un membre de l'ONG depuis dimanche à Kinshasa.
La cour d'appel de Paris a condamné à 6 ans de prison un Français candidat au djihad arrêté en 2012 au Mali. Il tentait de rejoindre des groupes qui s'étaient emparés du nord du pays. En première instance, Ibrahim Ouattara, âgé de 27 ans, avait été condamné à 4 ans de prison. Le parquet, qui avait requis 2 ans de prison de plus, avait fait appel.
En Algérie, 2 islamistes armés ont été tués par l'armée dans la région d'Aïn Defla, à quelques 160 km d'Alger. D'après le ministère de la Défense, ils ont trouvé la mort lors d'une opération de ratissage, à l'issue de laquelle des armes et des munitions ont été récupérées. L'armée avait déjà tué 3 islamistes dans cette région le 10 mars.
Les rebelles du Soudan du Sud ont dit ce mardi être engagés dans d'intenses combats avec les troupes gouvernementales. Les affrontements ont eu lieu près de la localité de Renk, dans l'état pétrolier du Haut-Nil, proche de la frontière soudanaise. Des sources humanitaires ont confirmé des combats dans cette zone, mais sans pouvoir donner plus de détails. Félix Yepasis Zembrou.
Le gouvernement sud-soudanais a affirmé hier que ses troupes ont tué de nombreux combattants rebelles près de Renk. Ce qu'un porte-parole rebelle, Loni Ngundeng, a démenti auprès de l'AFP à Addis Abeba, assurant au contraire que l'armée sud-soudanaise avait subi de lourdes pertes. Les deux camps qui s'affrontent depuis décembre 2013 s'accusent mutuellement d'être à l'origine des combats autour de Renk. Après plus d'un an de pourparlers largement stériles à Addis Abeba, sous médiation de l'organisation gouvernementale est-africaine IGAD, les responsables des deux parties au conflit se sont séparés sur un constat d'échec au début du mois de mars, suscitant la colère des médiateurs et de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté quelques jours avant l'échec des pourparlers une résolution prévoyant des sanctions contre les belligérants, mais n'a pas encore formellement désigné les individus concernés.
Les autorités judiciaires genevoises vont restituer au Nigeria près de 380 millions de dollars. Cet argent avait été confisqué à Sani Abacha, ex-dictateur qui a dirigé le pays entre 1994 et 1998.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef du nucléaire iranien affirme que les responsables de son pays sont parvenus à une compréhension mutuelle avec les États-Unis et leurs partenaires sur la plupart des questions dans les négociations en cours en Suisse sur le programme nucléaire de l'Iran. Ali Akbar Salehi a cependant déclaré à la télévision publique iranienne qu'une divergence importante demeure et que cette question devrait être réglée d'ici mardi. Salehi a fait ses remarques au moment où le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministère iranien des Affaires étrangères Mohamed Jafad Zarif tenaient leur deuxième journée de discussion.
Les Israéliens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur Knesset au Parlement. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, brigue un 4e mandat dans ce scrutin. On fait le point avec Michel Joseph.
Les derniers sondages effectués avant le vote d'aujourd'hui donnent l'avantage à l'Union sioniste d'Isaac Herzog, qui dirige une alliance de centre-droit face à M. Netanyahou. Mais aucun des deux leaders ne devrait avoir la majorité absolue de 61 sièges au Parlement de 120 membres. Dès lors, chacun de son côté déploie de gros efforts pour obtenir le soutien de plus petits partis, allant des formations communistes aux partis arabes et aux blocs de juifs orthodoxes. Pour les analystes, cette élection est un référendum sur la gestion Netanyahou. Hier, à la veille du scrutin, le Premier ministre est revenu sur sa position concernant la création d'un État palestinien, disant que s'il reste au pouvoir, un tel État ne verra jamais le jour. Mais, selon les sondages, les questions socio-économiques, la cherté de la vie et des logements. En tout état de cause, M. Herzog insiste sur la nécessité de négocier avec les Palestiniens.
Et puis revenons sur ces frappes aériennes des forces syriennes qui ont tué en novembre dernier des civils à Raqqa, une ville du sud. Et selon un nouveau rapport d'Amnesty International, ces attaques violent le droit international. Le rapport publié aujourd'hui fait le point de ces frappes qui ont tué 115 civils sur plusieurs jours. Amnesty, qui affirme avoir eu des entretiens avec des témoins, soutient que ces attaques s'apparentent soit à des attaques directes contre des civils, à des bombardements aveugles ou disproportionnés qui sont proscrits en vertu du droit international humain. Raqqa est un bastion du groupe État islamique.
Sachez aussi que 12 détenus, tous hommes, ont été exécutés par les autorités pakistanaises ce mardi. 10 prisonniers ont été pendus à une prison dans la province de Punjab.
Voilà. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Africa.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Fonds monétaire international annonce l'ouverture le 23 mars à Brazzaville, au Congo, d'une conférence sur l'inclusion financière en Afrique centrale. La conférence intitulée « Finances pour tous, promouvoir l'inclusion financière en Afrique centrale » va permettre d'aborder l'impact de l'inclusion financière sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté, car l'accès aux services financiers peut jouer un rôle déterminant dans la réduction des inégalités et la promotion d'une croissance inclusive. La rencontre est co-parrainée par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. L'Ivoirien Thierry Tano a nouveau assigné le groupe bancaire Ecobank devant le tribunal de commerce d'Abidjan pour le paiement de 10,8 milliards de francs CFA. Cette assignation fait suite à la non-publication de son procès gagné en première instance dans le quotidien économique et financier britannique, le Financial Times, et auprès du groupe de presse économique américain Bloomberg News. M. Tano explique que cette décision n'a pas été publiée depuis 54 jours, d'où la réclamation du montant de l'assignation qui est de 10,8 milliards de francs CFA à raison de 200 millions de francs CFA par jour de retard. Et le débat sur le plafond légal de la dette publique a repris ici aux États-Unis. Démocrates et républicains s'étaient mis d'accord en février 2014 pour le suspendre provisoirement. Ce compromis ayant expiré lundi, les États-Unis sont désormais tenus de ne pas dépasser leur niveau actuel d'endettement d'environ 18,1 milliards de dollars tant que le Congrès n'aura pas formellement relevé ce plafond. Pour se donner un peu de marge de manœuvre, le secrétaire au Trésor américain Jacob Lew a annoncé des mesures exceptionnelles. Elles devraient permettre à l'administration de tenir jusqu'en octobre ou en novembre prochain.
La Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Merci.
Alors, vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, c'est l'heure des sports. Et je reçois Nicolas Pinot. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Bagassi.
Alors, le nouveau sélectionneur du Burkina Faso, officiellement présenté à la presse ce mardi.
Garnet Traoré a été intronisé à la tête de la sélection aujourd'hui. Après le Niger ou le Gabon, le technicien allemand va diriger les étalons vice-champions d'Afrique 2013. Mais très décevant, lors de la dernière CAN, Rohr remplace Paul Put.
Repos ce mardi à la CAN Junior au Sénégal.
La première demi-finale aura lieu demain. L'opposera au stade Léopold Sédar Senghor, le Nigeria, premier du groupe A au Ghana, deuxième du groupe B. Les Flying Eagles face aux Black Starlets pour un duel de feu 100% anglophone. Le Mali a terminé en tête de son groupe et rencontrera jeudi le Sénégal.
Afro-Basket 2015, le Burkina Faso éliminé par le Nigeria hier soir à Ouagadougou.
Les Burkinabés n'ont pas pesé lourd face aux Super Eagles. Les étalons espéraient pourtant obtenir une deuxième qualification pour l'Afrobasket après celle obtenue en 2013 à Abidjan. Compte rendu de ce match à Ouagadougou avec Salif Kabore.
Les Burkinabés n'ont pas pesé lourd devant les Nigériens. Les Super Eagles ont dominé de bout en bout les étalons de Burkina Faso par 87-64 et se qualifient pour l'Afrobasket Tunisie 2015. Jean-Paul Rebatté, entraîneur des étalons de Burkina.
On sait que le Nigeria est une grosse nation basket. Ce soir, ce qui m'anime, c'est beaucoup, beaucoup de regrets. On a un entraînement et demi de préparation. Le Nigeria, il s'entraîne depuis janvier. Et on ne peut pas rivaliser. Je regrette parce qu'on a eu 15 jours d'entraînement avec plus de joueurs, bien sûr. Je suis sûr qu'on pouvait proposer une autre image ce soir. Même si je suis agréablement surpris que le peu de choses que l'on a travaillé, on a eu des moments très efficaces.
Les étalons qui espéraient rééditer l'exploit de 2013 à Abidjan voient ainsi leur espoir voler en éclats. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Battu par Monaco à Londres 3-1 à l'Emirates Stadium au match aller, Arsenal tentera de renverser la vapeur au stade Louis II. Arsène Wenger, l'entraîneur du club anglais, a estimé lundi que son équipe avait une deuxième chance. Autre match ce soir au stade Vicente Calderón, l'Atlético Madrid reçoit Leverkusen. Et demain au Camp Nou, la réception de Manchester City par le FC Barcelone, vainqueur 2-1 à l'aller en Angleterre. Même scénario pour la Juventus de Turin, forte de sa victoire 2-1 à l'aller, l'équipe italienne pourrait bien mûrer son but face à Dortmund.
Toujours en Europe, l'Ivoirien Serge Aurier risque des sanctions de la part de l'UEFA.
Une procédure disciplinaire a été ouverte contre le défenseur international ivoirien du Paris Saint-Germain. Il avait insulté sur les réseaux sociaux l'arbitre de Chelsea Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le cas sera traité après-demain par l'instance disciplinaire de l'UEFA.
Et puis enfin, quelques résultats de la NBA, le championnat du basketball nord-américain.
Miami a gâché le retour en Floride de LeBron James avec Cleveland, 106-92. Golden State est désormais mathématiquement assuré de participer aux playoffs. Les Warriors ont battu difficilement les Lakers, 108-105.
Voilà, c'était le journal des sports avec Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassi Kouré, Morgane Guiriek en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
Première escale, la République démocratique du Congo. Nous en parlions dans le journal. Une dizaine de personnes ont été arrêtées ce mardi à Goma. Ces militants de lutte pour le changement protestaient devant les locaux de l'Agence nationale de renseignement. L'ANR détient un des leurs à Kinshasa depuis dimanche. Fred Boma avait été arrêté avec des membres du mouvement sénégalais Yanamar et Burkinabé Balai Citoyen. Ils entendaient sensibiliser la jeunesse congolaise sur les questions de gouvernance et de démocratie. Nicolas Pineau a joint le rappeur Tiat, membre du collectif Yanamar à Dakar. Un sujet sur lequel on va revenir dans quelques instants.
Voilà, donc on va poursuivre cette fois-ci au Tchad avec ce nouveau développement dans l'enquête judiciaire ouverte par le gouvernement suite à la mort d'un étudiant la semaine dernière lors d'une manifestation contre le port obligatoire du casque. Des éléments de la police d'intervention ont été arrêtés aujourd'hui. Une arrestation qui vient au lendemain de la publication d'une vidéo dans laquelle on voit des policiers battre des jeunes. Une vidéo particulièrement choquante. Pour nous en parler, Saloua Jafari a joint par téléphone de Zoumbé Daniel Passalé. Il est le président des droits de l'homme sans frontières.
Et pour ce qui concerne l'arrestation de certains policiers qui ont contribué à la torture des manifestants, ça c'est une mesure gouvernementale, une mesure administrative que nous apprécions. Mais nous souhaitons que cela soit pérenne, parce qu'il ne faut pas faire ça simplement pour jeter de la poudre aux yeux des gens et puis faire autre chose. Ça, vraiment, c'est une chose intéressante. L'autre chose que nous avons appréciée, elle est antérieure à cette mesure, c'est l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ça, nous avons demandé au gouvernement à son temps d'ouvrir l'information judiciaire. Si le gouvernement y est arrivé, ça, vraiment, nous apprécions pas et à sa juste valeur, mais nous voulons que vraiment que la justice soit indépendante, que le gouvernement ne revienne pas par ailleurs obliger la justice à porter ses enquêtes ou à laisser tomber certaines pistes. Ça, vraiment, il faut que le gouvernement lave le nez de cette histoire-là, que l'enquête soit indépendante de nature à dire clairement à l'opinion que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants.
Monsieur Bassalé, parlons de cette vidéo qui circule sur Internet ces derniers jours et dans laquelle on voit clairement des policiers battre des jeunes et les soumettre à des traitements humiliants. Quel est le sentiment général par rapport à cette vidéo ?
C'est une déception. Les personnes sensibles, en voyant la vidéo, n'arrivent pas à la visionner deux, trois minutes. Une fois, les gens éclatent en sanglots. C'est inadmissible que des êtres humains futiles policiers qui doivent se charger de la sécurité, de l'intégrité physique, de la protection de l'intégrité physique des citoyens puissent se comporter de cette façon. Ça, vraiment, le sentiment d'une déception générale. Mais ça veut dire que le fossé se creuse davantage par rapport à la confiance entre la police, qui est constituée la force intérieure, et la population.
Comment voyez-vous le dénouement de cet épisode ?
Le dénouement, il est à portée de main en ce moment, parce que les mesures que le gouvernement prend, l'ouverture d'une enquête judiciaire, la suspension, l'arrestation d'une dizaine de policiers mis en cause, ça, ce sont des mesures qui peuvent apaiser les cœurs des manifestants, les cœurs de d'autres services tout entier. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Maintenant, ce que les gens réclament partout, c'est la suspension de cette mesure. Nous aussi, nous avions été parmi les premières organisations à demander au gouvernement, qui est la première, de suspendre la mesure.
Voilà, c'était Dezoumbé Daniel Passalé. Il est président des droits de l'homme sans frontières à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Retour sur la RDC, vous en parlions il y a quelques instants. Une dizaine de personnes ont été arrêtées ce mardi à Goma, dans l'est du pays. Ces militants de lutte pour le changement protestaient devant les locaux de l'Agence nationale du renseignement. L'ANR détient un des leurs à Kinshasa depuis dimanche. Fred Bauma avait été arrêté avec des membres du gouvernement du mouvement sénégalais Yanamar et burkinabé Ballet Citoyen. Nicolas Pinault a joint le rapport Tiat, membre du collectif Yanamar à Dakar.
On vient juste d'avoir des nouvelles officielles émanant de l'État du Sénégal qui nous confirment qu'il y a eu un émissaire du consulat sénégalais de Brazzaville qui a envoyé quelqu'un à Kinshasa qui a pu rencontrer les gars hier au bout de 2 heures de temps et qui a pu échanger avec eux et nous a confirmé que les gens n'ont pas été brutalisés et qu'ils allaient bien et il leur a même apporté à manger et que aussi les négociations étaient toujours en cours, donc nous espérons.
Est-ce que vous demandez une implication plus forte de l'État sénégalais?
Effectivement, nous souhaitons que l'État du Sénégal fasse le maximum pour faire libérer nos frères et pas seulement les Sénégalais, il faut que aussi l'État burkinabé aussi fasse de même et que la société civile congolaise aussi réagisse pour les Congolais qui sont aussi arrêtés. C'est pas normal, c'est injuste. On est au troisième millénaire, on ne peut pas arrêter des gens comme ça. Et puis, le pire, c'est qu'il y avait des journalistes et des étrangers, en tout cas des Occidentaux, qui eux ont été libérés et qu'on garde des Africains. Ça veut dire qu'il y a un manque de considération, mais considérable, à l'égard des leaders africains entre eux-mêmes.
Est-ce que vous êtes surpris par la réaction de l'État congolais sur cette affaire?
Non, du tout. Je suis surpris des accusations, mais je ne suis pas surpris. Parce qu'on sait sur quel terrain nous sommes. On sait qu'en Afrique, beaucoup de pays n'ont pas autant de liberté que nous en avons ici au Sénégal. En tout cas, Fadel Foumala et Aliou Sané qui sont arrêtés, ils étaient conscients de ce qui pouvait les attendre là-bas.
Et qu'est-ce que vous dites aux Congolais?
Je leur demande de rester forts et qu'ils ont notre soutien. S'ils nous appellent demain, on ira encore. Et que nous allons rester forts, nous allons rester mobilisés et que c'est possible. Kabila, quand même, c'est le président des Congolais. Les Congolais, ils n'ont qu'à gérer Kabila. Nous, on est plus dans la citoyenneté. Nous, on est dans ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Mais c'est clair que Kabila, il dure au pouvoir, il a hérité de son père. C'est pas normal. Nous ne sommes pas des Sénégalais, nous sommes des Africains nés au Sénégal. Nous pensons qu'il n'a pas le droit de rester au pouvoir autant de temps. Et il n'a pas le droit de prendre en otage le peuple congolais. Il n'a pas le droit de tripatrier la constitution congolaise. Ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle, nous en tout cas, la démocrature. La démocrature, c'est quoi? C'est une dictature avec une constitution déguisée.
Voilà, c'était le rappeur Tiat, membre du collectif Yanamar à Dakar.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
Voilà, au Libéria, il y a 5 mois, les habitants n'avaient pratiquement pas de vie sociale dans ce pays. En pleine crise Ebola, les gens faisant tout pour éviter tout contact qui pourrait leur transmettre le virus. Eh bien, aujourd'hui, on ne signale plus de nouveaux cas d'Ebola et les Libériens retournent en masse sur les plages et envahissent de nouveau les boîtes de nuit. Reportage de Benoît Mouchler de la VOA, présenté ici par Michel Joseph.
Les Libériens sont bien entendu heureux de pouvoir retrouver leurs activités sociales, mais ils n'en reconnaissent pas moins que leurs soucis n'ont pas tout à fait disparu. Derek Tamba, 28 ans, rencontré sur une plage de Monrovia un récent dimanche.
J'ai commencé à revenir à la plage dès que le gouvernement a annoncé pour la première fois qu'il levait le couvre-feu et rouvrait les écoles. J'en ai alors déduit qu'il n'y avait pas de danger à retourner à la plage pour réfléchir et à nouveau tout simplement passer du bon temps avec nos amis.
Ce retour, pour ainsi dire, à la normale offre un contraste saisissant avec la vie des Libériens il y a juste 5 mois. Aujourd'hui, on les voit dans la rue partageant nourriture et boissons et ils s'entassent, comme avant la crise, dans les bus et taxis sans apparemment le moindre souci. Ils envahissent aussi les églises où les seaux de chlore sont toujours déposés à l'entrée pour se désinfecter les mains. Ils vont à l'église, mais aussi dans les boîtes de nuit. Il y a 5
mois. L'Exodus Bar au centre-ville de Monrovia, fermé à 21h les samedis. Aujourd'hui, il est bondé jusqu'à l'aube. Mais cela ne signifie pas que tout le monde se sent complètement à l'abri du virus. Par exemple, Honey Davis, elle était dehors en train de boire sa bière, précise qu'elle n'est venue à ce bar qu'à cause de la célébration du mariage de sa sœur. Mais elle évite délibérément la foule dans le bar et ne serre pas les mains.
Je reste ici, comme si je me cachais, parce que je sais que nous sommes avec d'autres gens et ils veulent dire hello. C'est pourquoi je suis assise dans ce coin, essayant d'avoir une ou deux bouteilles avant de rentrer chez moi.
L'épidémie d'Ebola a eu également un impact préjudiciable sur les relations entre hommes et femmes au Liberia. Les frères Jamal et Isaiah Williams, la vingtaine tous les deux, expliquent qu'ils évitaient même tout rapport intime avec leurs amis. Maintenant, la confiance prévaut de nouveau, dit Isaiah. Jamal a du mal à trouver un emploi et dit ne pas savoir quoi faire. Le loyer est en retard et ses perspectives ne sont pas réjouissantes. Oui, il se félicite de la reprise des activités sociales au Liberia, mais cela ne signifie point que ça va maintenant. Le Liberia se débat, dit-il, dans les mêmes problèmes qu'il connaissait avec l'épidémie d'Ebola.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. Est-ce une réaction attendue de Boko Haram face à l'offensive des armées tchadiennes, nigériennes et camerounaises venues soutenir le Nigeria? Qu'apportera cette alliance aux deux groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Kaboul se félicite des informations selon lesquelles les États-Unis renonceraient à leur projet de ramener à 5500 le nombre de leurs soldats en Afghanistan avant la fin de 2015, suite à une requête de leur chef militaire sur le terrain. Les précisions de Lionel Guéhima.
Le représentant permanent de l'Afghanistan à l'ONU, Zahir Tanin, a dit aux journalistes à New York qu'il est nécessaire pour les États-Unis de mieux évaluer les réalités sur le terrain dans le cadre de leur partenariat stratégique avec l'Afghanistan et apporter les ajustements requis. Cela permettra à l'Afghanistan, a ajouté M. Tanin, de mieux faire face à ses défis sécuritaires. Bien qu'aucune décision finale n'ait été faite sur le nombre concerné, les officiels américains disent qu'on s'attend à ce que le gros de 10 000 soldats actuellement en Afghanistan reste dans le pays au-delà de 2015. Une annonce officielle pourrait intervenir, vraisemblablement, la semaine prochaine lors de la rencontre à Washington entre le président Barack Obama et son homologue afghan Ashraf Ghani. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, s'est refusé à commenter tout chiffre spécifique, se contentant de déclarer « Je peux vous dire que le président est en consultation étroite avec son équipe chargée de la sécurité nationale ainsi qu'avec ses chefs militaires sur le terrain au sujet du rythme adéquat du retrait militaire ».
Lionel Guéhima, hein, toujours selon John Earnest, l'objectif serait d'avoir au début de 2017 une présence militaire à Kaboul, axée sur la protection de l'ambassade américaine et la coordination de la coopération militaire. Une mission qui impliquerait, estime-t-on, hein, un millier de soldats.
Il y a donc une indication que le président Obama soit prêt à abandonner sa promesse de toujours, à savoir le retrait de toutes les troupes américaines à la fin de son mandat en janvier 2017. Certains membres du Congrès, dont le sénateur républicain John McCain, président de la Commission des Forces armées, avaient exprimé leurs préoccupations sur un retrait rapide de soldats américains cette année. Lors d'audiences publiques le mois dernier, M. McCain avait déclaré qu'une telle absence militaire en Afghanistan créerait un vide et permettrait aux terroristes de fomenter en Afghanistan le même genre de désastre que nous avons vu en Irak, une instabilité croissante, des sanctuaires terroristes et des menaces directes aux États-Unis.
Voilà, vous écoutez Le Monde. Aujourd'hui, avant de nous séparer, le rappel des titres.
Au Sénégal, le président Macky Sall veut réduire son mandat de 7 à 5 ans, conformément à l'une de ses promesses électorales.
Arrestation de militantes pro-démocratie et de journalistes à Goma, RDC, lors d'une manifestation devant l'Agence nationale de renseignement.
En République centrafricaine, au moins 8 personnes ont été tuées au début de cette semaine dans la région de Ngoundaï, dans le nord du pays.
Les Israéliens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur parlement. Parlement. C'est tout donc pour cette édition du jour. C'était présenté par Morgane Guiriac et Bagasikoura. On se donne rendez-vous dans 5 minutes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.